Accent d'Europe, Catherine Roland.
Allez, place à notre invité du jour.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans.
On part direct sur de bonnes.
Et c'est quand même meilleur.
Il y a quelques années, vous vous en souvenez, les spécialistes annonçaient l'arrivée d'une nouvelle société en réseau.
I spent more than a year inside the criminal courthouse in Cleveland, Ohio.
Bonjour à tous. Ce que vous entendez là, ce sont quelques exemples de podcasts, ces nouvelles formes radiophoniques qu'on écoute sur son portable, sa tablette ou une enceinte connectée. Et autour de ces podcasts, il flotte la même effervescence qu'au moment de l'émergence des radios libres dans la France du début des années 80. Le modèle économique connaît déjà un beau succès aux États-Unis. En France, les différents acteurs commencent à sentir un frémissement. Et à l'occasion du premier festival dédié à ce nouveau média, le Paris Podcast Festival, Frédéric Lebel est aller rencontrer les professionnels du secteur.
Jenna Weiss-Berman, directrice de l'audio chez BuzzFeed et aujourd'hui cofondatrice d'un studio de podcast qui s'appelle Pineapple.
Quand on parle de podcast en France, c'est forcément vers les États-Unis qu'on tend l'oreille. Un quart des Américains écoutent désormais un podcast tous les mois. Le marché publicitaire a quasiment doublé en 2017. Invitée du festival, Jenna Weiss-Berman, une quasi-star dans le milieu, fondatrice du Pineapple Street Media, un des plus grands studios de création.
Il y a une croissance du secteur vraiment très rapide. Il y a maintenant entre 10 et 12 compagnies à New York et Los Angeles qui sont comparables à la nôtre. Elles proposent des podcasts à des sociétés, à des marques, à des personnalités, des magazines.
Les équipes de production du Pineapple Street Media donnent le tournis pour une seule série. Il faut compter une dizaine de personnes, des documentalistes, un directeur artistique, des preneurs de son, journalistes, producteurs. Retour sur Terre et en France, le podcast reste un produit d'artisan solitaire. Avec son podcast chiffon dédié aux vêtements et ce que révèle notre manière de nous habiller, Valérie Trib fait partie des beaux succès du podcast hexagonal. Chaque épisode fédère en moyenne 80 000 auditeurs. Son modèle économique, c'est le pré-roll. Entendez l'annonce publicitaire qu'elle lit dans sa voix au début de chaque podcast qui se trouve ainsi sponsorisé. Un mélange des genres, désormais familier parmi les podcasteurs.
La marque s'associe à Chiffon pour vous offrir 10% sur votre commande avec le code CHIFFON10.
Et moi, mes annonceurs, la plupart veulent repasser dans Chiffon parce qu'ils sont très très contents. Là, moi, je vois, c'est une marque de maroquinerie. Avec leur passage en Chiffon, leurs porte-monnaies sont sold out. Donc je leur dis, avec le code chiffon, vous bénéficiez de moins 20% de réduction, etc. Et en fait, du coup, ils peuvent tracer, c'est de la traçabilité. Après, moi, c'est de l'informatique, c'est de la pub, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça me permet juste de faire vivre mon podcast, et de pouvoir en vivre, de pouvoir avoir un ingé son, de pouvoir le payer, de pouvoir payer une assistante, etc.
Binge audio. Ah non, binge.
Mais aux côtés des indépendants, il y a désormais des plateformes qui se vivent comme de nouveaux médias. Aux côtés de Boxon, Nouvelles Écoutes et bientôt Magellan, on trouve Binge Audio, à la fois éditeur et diffuseur. Joël Renez a fondé sa société il y a 4 ans. Ses podcasts s'adressent principalement aux moins de 30 ans. Culture pop, témoignages, cuisine, autant de contenus originaux financés grâce à d'autres productions, du brand content, entendez du contenu publicitaire audio et long format, commandé aussi bien par Disney que Médecins Sans Frontières.
Dans le monde en fait internet, on est plutôt à vendre de l'attention, de l'affinité. On est plutôt à vendre des communautés d'auditeurs qui sont engagés sur des contenus. Ben nous, on va produire des contenus sur la base en fait d'un brief d'un annonceur qu'on va distribuer à notre public en ayant bien pris le soin de spécifier que c'est un contenu qui est sponsorisé. Et l'annonceur, lui, son intérêt, c'est d'avoir effectivement la possibilité de parler à un public autour des sujets qui le concernent avec un peu de temps long. Et je dirais qu'un certain type d'annonceur, par exemple, on travaille avec le secteur public, on travaille avec la mairie de Paris, on travaille avec l'université de Paris-Saclay, ils veulent valoriser leur parcours de master. On travaille avec Médecins Sans Frontières, ils ont travaillé sur la question des migrants à Pantin. Ils veulent exprimer des choses complexes avec de la nuance. Voilà.
À terme, Binge voudrait évoluer vers un modèle freemium, partiellement gratuit pour les auditeurs qui devront payer plus s'ils veulent plus, en abonnement donc. Autant de modèles économiques qui ont bien sûr donné des idées aux agences de communication. Chez Havas, on parle d'audience affinitaire. Chloé Tavissian est en charge des podcasts. Elle a notamment produit une série pour une grande marque de luxe, de belles histoires autour des créateurs et des artisans de la marque, des produits hybrides, publicitaires mais intéressants, intéressants mais publicitaires.
Nous, on dit souvent, un bon podcast, il y a trois règles. Premièrement, une bonne histoire. Deuxièmement, une bonne histoire. Et troisièmement, une bonne histoire. Ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que ça laisse travailler l'imagination. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui est saturée d'images et d'écrans. Et le podcast, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça fait appel à l'intelligence des gens. Avec le podcast, on est dans du temps long. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint par des formats de 30 secondes en télé ou des bannières de 300 pixels. On a le temps de raconter des choses, on a le temps de rentrer en profondeur dans les sujets. Et ça, pour les marques, c'est intéressant parce qu'elles vont pouvoir développer leur discours de façon un peu plus approfondie et un peu plus longue, tout simplement.
Le podcast voit l'avenir en rose et en or, mais en France, les revenus publicitaires se comptent pour l'instant seulement en centaines de milliers d'euros, bridés par un problème de taille, la comptabilisation des audiences, qui n'est pour l'heure ni fiable ni globale.
Mais les podcasts sont-ils vraiment en train de révolutionner la radio? Pour les auditeurs fidèles à France Inter, une émission culte animée par Jacques Chancel entre 1968 et 1988, diffusée tous les jours en fin d'après-midi, proposait de longs entretiens. Radioscopie s'ouvrait sur l'inoubliable générique de Georges Delru et elle a accueilli les femmes et les hommes qui ont marqué leur époque. Des artistes, bien sûr, des écrivains, des intellectuels, des politiques aussi. Au fil des émissions, Jacques Chancel a su réinventer l'art de l'entretien qui s'est transformé en véritable conversation. Je vous propose cette petite madeleine sonore avec dans l'ordre la star Brigitte Bardot, le metteur en scène François Truffaut et la comédienne Jeanne Moreau.
Brigitte Bardot, est-il difficile d'être, non pas Bardot, mais de le rester?
C'est beaucoup plus difficile de le rester, bien sûr, que de l'être. Et je crois que, en faisant, par exemple, ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'ours et la poupée, je sens que je reste Bardot en ce moment.
François Truffaut, vous avez une qualité rare, vous aimez le cinéma. Vous allez à la Cinémathèque comme un peintre va au Louvre. On vous dit sincère, je vous crois honnête, mais on dit, mais on croit tant de choses. Alors qu'êtes-vous en vérité, François Truffaut?
Ben vous savez, je me reconnais assez bien dans ce chapeau, enfin oui, j'aime le cinéma, c'est la moindre des choses, pour, étant donné que j'en ai fait mon métier, ma raison de vivre. Et puis voilà, c'est tout. Sincère, je le suis... Je le suis peut-être, mais peut-être pas complètement. Je ne suis pas pour la sincérité totale en art ou dans la vie, pour des tas de raisons. Et puis voilà, honnête, j'espère l'être, oui.
Jeanne Moreau, j'ai l'impression que le temps est devenu maintenant pour vous l'une des choses les plus importantes de la vie. Comme si vous vouliez profiter de chaque seconde, de chaque minute, comme si vous vouliez faire de plus en plus de choses.
N'importe comment, vous le savez, le temps est chose précieuse. Et même lorsqu'on ne fait rien d'apparemment productif, d'apparemment spectaculaire, j'y pense sans cesse. Et il est certain qu'en ce moment, ce temps est plein de... désir de création et de travail. Mais c'est le résultat d'un temps plein aussi, à craquer, mais dont il n'y avait pas à parler, parce que c'était le temps de la gestation, disons.
Radioscopie, c'est aussi un livre Radio Francina avec les entretiens longs de Jacques Chancel, et c'est publié aux éditions du Sous-Sol.
Are you in the mood for murder, conspiracy and betrayal? Me too.
Très Très fidèles à leur feuilleton radio, et cela depuis très longtemps maintenant, les Britanniques écoutent également différemment leurs séries diffusées sur les ondes de la BBC. Les plus jeunes, notamment, podcastent leur feuilleton préféré. Du coup, les producteurs de feuilletons s'adaptent.
Mary Queen of Scots by Alexander McKendrick and J. Preston Allen.
Mary Stuart, reine d'Écosse. Ce que vous entendez est en fait tiré d'un scénario de film qui n'a jamais vu le jour. Il devait être réalisé par l'Écossais Alexander McKendrick, mort en 1993. La BBC a décidé d'en récupérer le script et de l'adapter.
Protestant against Catholic. Two countries about to collide. England and Scotland. And at the heart of it all, Mary, Queen of Scots.
Le feuilleton dure 1h30, une durée inadaptée au format des radios aujourd'hui. Alors, il est écouté en podcast sur la toute nouvelle application du média public BBC Sounds, un média à l'outil de recherche ultra perfectionné qui permet aux jeunes et aux plus âgés de chercher un programme par thème ou par genre. Tout est podcastable. La BBC, qui a quasiment le monopole des feuilletons fiction à la radio au Royaume-Uni, en diffuse plus de 600 heures par an. Il y a les classiques comme The Archers, une série sur une famille de paysans qui est diffusée depuis 1950, plus de 18 000 épisode. Et le succès est toujours au rendez-vous. Mais le genre n'est plus destiné aux familles ou aux personnes âgées assises près du poste de radio. La BBC veut attirer les jeunes nomades avec des œuvres comme Attention aux chiens, un feuilleton adapté du livre peu connu de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie.
Down below, there was only a vast white sea of cloud. Above, there was the sun. And the sun was white like the clouds, because it is never yellow when one looks at it from high in the air.
Pas de bruitage, donc juste une lecture à voix haute pour les plus jeunes. L'adaptation d'une maison à louer de Charles Dickens, elle bénéficie d'une réalisation plus sophistiquée, mais qui reste discrète.
Mr. Chops!
Well?
The supply of wine is perilously low.
Yeah, let more be sent up from your capacious cellar, Mr. Chops, lest we die of thirst.
Yeah, and afore I forget.
Yes.
La BBC va plus loin en produisant régulièrement des œuvres originales et plus cinématographiques, parfois liées à l'actualité, comme Homefront sur le quotidien des Britanniques pendant la Première Guerre mondiale, créé à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre.
Let me help. Try and help lift the cable.
No, it's too heavy. Let go of the side. Your fingers off.
The train, it's caught. It'll pull the train in.
You have got it. Hold this.
The chisel won't do it.
Just hold it still.
Grâce aux nouvelles formes d'écoute, le feuilleton radio n'est donc pas un genre poussiéreux au Royaume-Uni, un succès dû aussi aux moyens qui lui sont consacrés. En 2017, la BBC a lancé le partenariat pour l'investissement dans la fiction pour assurer les financements de ses créations.
Notre correspondante à Londres, Marie Billon, elle aussi fan des feuilletons de la BBC.
Oh, give me back the good old days when Britannia ruled the waves and built a mighty empire on colonies and slaves.
On reste au Royaume-Uni avec l'actualité du Brexit, largement commentée sur la BBC bien sûr, et cette rumeur de plus en plus insistante sur le fait qu'il y aurait un second référendum. Theresa May et ses différents ministres tentent de la dissiper. Il n'y aura pas de second référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, même pour sortir de l'impasse. Une péripétie en tout cas de plus, qui illustre bien l'incertitude dans laquelle sont plongés les Britanniques à ne plus y comprendre rien. Pour essayer d'y remettre un peu d'ordre, le grand historien de l'économie mondiale, Kevin O'Rourke, propose d'y voir plus clair avec une brève histoire du Brexit. Le professeur d'Oxford, qui revient d'abord au micro de Frédéric Lebel sur ses origines très européennes.
Je suis né en Suisse d'un père irlandais, d'une mère danoise. J'ai grandi à Londres, à Dublin et à Bruxelles. J'habite Dublin, je travaille en Angleterre et je suis conseiller municipal en France.
Donc vous êtes concerné au premier chef par le Brexit, et de par vos origines irlandaises, vous dites aujourd'hui, c'est absolument incroyable que quand on a parlé du Brexit au départ et pendant tout ce début de négociation, on n'avait jamais vu pointer le problème irlandais.
Il y a eu quelques grosses têtes bien pensantes, des universitaires, des ex-premiers ministres qui ont soulevé la question irlandaise, mais il n'y a eu aucun écho dans le débat public. Pour eux, ce n'était pas un problème. Pour nous, par contre, à Dublin, c'était toujours très évidemment un énorme problème.
Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ce problème?
Le problème, c'est que En 1998, il y a eu cet accord de Vendredi Saint qui a mis terme à cette guerre civile qui a duré 30 ans en Irlande du Nord, qui a coûté la vie de plus de 3000 personnes, ce qui, à l'échelle française, est l'équivalent de 110 000 personnes. Donc, c'est un conflit très sanglant. Et cet accord du Vendredi Saint a reposé sur le fait que on était tous en Europe et que donc on pouvait envisager un futur dans lequel la frontière n'aurait plus d'importance et serait même invisible, ce qui voulait dire que les catholiques nationalistes de l'Irlande du Nord pouvaient être citoyens irlandais, résidents peut-être du Royaume-Uni, mais résidents aussi d'une île où il n'y avait pas de frontière visible. Alors c'est très important donc de garder cette frontière invisible, mais pour ce faire, il faut garder les moyens qui ont rendu possible l'invisibilité de la frontière. Et quels sont ces moyens? Eh bien, c'est justement l'union douanière de l'Union et aussi son marché unique.
On assiste aujourd'hui à un véritable blocage politique. La première ministre, Theresa May, qui vient de sauver sa tête au Parlement, est dans une impasse. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui?
On peut envisager tout. On peut envisager un deuxième référendum. On peut envisager que l'accord passera au dernier moment, en janvier. On peut aussi envisager une sortie catastrophique sans accord. Donc le futur, on ne le connaît pas, mais on peut, et c'est le thème du livre, comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui en comprenant l'histoire qui nous y a amenés.
Est-ce que le futur est dangereux?
Oui, le futur est dangereux, car une sortie sans accord serait très, très, très coûteuse pour tout le monde.
Pour vous, le professeur oui. d'économie, ce serait quoi le coût d'un no deal?
Ben, tout d'abord, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois en Angleterre qui se perdraient à coup sûr. Toutes ces industries telles que l'automobile qui dépendent de chaînes logistiques pan-européennes très compliquées ne seraient plus capables de fonctionner comme ils le fonctionnent aujourd'hui. Prenons l'exemple de Honda qui produit des automobiles près de Swindon. Il y a 2 millions de pièces détachées qui arrivent chaque jour alimenter leur usine et ils arrivent de partout en Europe et ils arrivent dans un délai de moins de 24 heures. On a estimé que si ces barrières arrivent encore sur l'horizon, alors ça pourrait prendre jusqu'à 9 jours. Or, pour stocker 9 jours de pièces suffisantes pour alimenter la production pendant 9 jours, il faudrait des lieux de stockage grands de 300 000 mètres carrés, donc 42 terrains de foot. Donc ça ne se fera pas. Donc il y a beaucoup de gens maintenant qui risquent de perdre leurs emplois en Angleterre, malheureusement.
Et à l'opposé, si on arrivait vers une autre solution, essayer de rester dans l'Union européenne, un second référendum, là aussi, il y a danger?
Eh ben, il y a danger parce que le livre peut très bien l'emporter pour une deuxième fois. Et alors, dans ce cas-là, alors les rêves de ceux qui sont pour l'Europe sont définitivement brisés. Mais on a l'impression que des deux côtés, maintenant, ils sont prêts à risquer le tout pour le tout. Les partisans de l'Europe sont prêts à risquer une sortie sans accord dans l'espoir de gagner un deuxième référendum. Les partisans d'un Brexit très dur sont prêts à risquer une deuxième référendum parce qu'ils espèrent avoir une sortie sans accord. Donc c'est très risqué en fait.
On va revenir à votre livre. Toute l'analyse du livre repose sur le fait que ce Brexit finalement en dit beaucoup sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Absolument. Les Britanniques ont toujours été allergiques à la nature supranationale de l'Union. Pour eux, c'est très bien d'avoir une zone de libre-échange, mais pourquoi il y a besoin de la Commission, de la Cour de justice et des règles communes? Néanmoins, cette histoire, ce sont les Britanniques qui sont à l'origine de ce qui continue de définir notre Union aujourd'hui, c'est-à-dire le marché unique qui a été quand même mis en œuvre par Madame Thatcher et son ex-bras droit, devenu depuis le bras droit de Jacques Delors, Arthur Cofield.
Le professeur Kevin O'Rourke avec Frédéric Lebel, une brève histoire du Brexit s'est publiée aux éditions Odile Jacob. Merci de votre fidélité sur Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Comme tous les jours, vous pouvez écouter cette émission sur notre page Facebook ou sur le site de RFI.